Radio Okapi.
Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Plus de 20 morts, bilan d'un éboulement hier dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Les victimes étaient en train de puiser de l'eau à une source lorsqu'elles ont été couvertes par des amas de terre. Un député provincial de Massissi demande au gouvernement d'enterrer dignement ces personnes. Les motocyclistes de Matadi au Congo central rejettent la décision du Conseil provincial de sécurité, celle de ne plus voir les motos circuler après 19 heures le soir. Pour dire leur mécontentement, une journée sans taxi-moto a été organisée ce lundi. Professeur Dieudonné Katunga, directeur intérimaire de l'INERA Mulungu au Sud Kivu, est l'invité de ce journal. Il va parler de la spoliation de l'espace réservé au centre de recherche de l'INERA. Avant le développement de tous ces titres, notez d'abord qu'au sud Kivu, il y a encore eu un cas de naufrage enregistré sur le lac Kivu avec des morts et des personnes disparues. Le drame s'est produit dans la nuit du 2 au 3 avril dans le territoire d'Idjui. Il s'agit d'une pirogue motorisée communément appelée boat qui quittait le groupement Mugote en direction de Goma. Selon les informations recueillies auprès des rescapés, cette pirogue avait à son bord environ 150 passagers, sans oublier les marchandises. Environ 80 rescapés ont été sauvés. 6 corps repêchés, dont 3 enfants et 3 femmes. Les recherches sont en cours. Nous détenons ces informations des Mamboléo Mustapha, administrateur du territoire d'Idjui. Au nord Kivu voisin, une vingtaine de personnes ont péri dans un éboulement hier dimanche à Boulois, groupement Boabo, en territoire de Massissi. Bilan encore provisoire car les fouilles se sont poursuivies ce lundi. Un député provincial de Massissi demande au gouvernement congolais d'assister les familles victimes en organisant des obsèques dignes. Le récit des faits avec Denise Luquet-Somapanda.
Cette catastrophe naturelle s'est produite dimanche vers 11h locale. C'est lorsque la population du village Boulois faisait la lessive et puisait de l'eau dans la rivière Kabouré, une source d'eau nouvellement aménagée avec un débit important. L'éboulement survenu soudainement a enseveli plusieurs personnes dont des enfants. Le bilan provisoire fait état de 21 personnes mortes, majoritairement des femmes dont 3 enceintes et quelques enfants. Les corps ont été retrouvés grâce à la mobilisation des habitants du Mulier venus à la rescousse. La fouille continue, c'est lundi pour éventuellement retrouver d'autres corps. Le député provincial de Massissi, Alexis Baunga, parle d'une situation calamiteuse qui nécessite une assistance en faveur des familles des victimes, notamment pour des obsèques dignes.
Le bilan est tellement lourd. Nous appelons donc les gouvernements congolais à pouvoir assister urgemment les familles déplorées, mais aussi demander à la population de continuer à planter des arbres pour éventuellement éviter que des catastrophes pareilles puissent survenir.
Signalons que le sol du territoire de Massissi est limono, argileux et meuble. Il peut se déplacer facilement, soit par la gravité, soit suite à une pluie torrentielle, ce qui est très souvent à la base de plusieurs érosions et éboulements de terre, parfois avec dégâts. Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Un autre éboulement a fait 6 morts, essentiellement des femmes, et 4 autres ont été blessés grièvement. Cela s'est passé toujours hier, mais cette fois-ci dans le quartier Télécom, commune de Kabondo, à Lusambo, province de Sankuru. Le maire de la ville affirme que ces femmes décédées seront enterrées ce lundi au cimetière de Lusambo. Des explications avec Esther Ndalafina.
D'après Louis Manga, maire de la ville de Lusambo, les victimes se sont retrouvées ce dimanche dans un ancien puits de minerai abandonné où elles sont allées chercher les pierres pour la fabrication artisanale de gravier à vendre auprès de l'office des voiries et drainage OVD qui exécute les travaux d'aménagement de la voirie urbaine. Le maire signale cependant qu'un communiqué a été diffusé sur le média il y a quelques mois interdisant toute exploitation sur ce site pour éviter les éboulements. La même source affirme que dimanche, plusieurs femmes dont le nombre n'a pas été évoqué se sont retrouvées sur ce site pour extraire les pierres dans le puits. Après avoir creusé, un des puits s'est affaissé, engloutissant ainsi une dizaine de femmes. Le bilan provisoire fait état de 6 femmes mortes dans ce puits, 4 repêchées et conduites à l'hôpital général de référence de Lusambo. Une 5e victime vient d'être conduite ce matin à l'hôpital après avoir présenté des signes critiques la nuit dernière, précise le maire. Lui-même Manga dit prendre en charge l'inhumation des victimes ainsi que les malades gardés à l'hôpital. Il sollicite par ailleurs l'appui financier du gouvernement central et provincial pour venir en aide aux familles des défuntes et aux malades qui sont hospitalisés à l'hôpital général de référence de Lusambo. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Journée sans taxi moto ce lundi dans la cité de Mwanda au Congo central. Les motocyclistes désapprouvent la décision du Conseil provincial de sécurité du 17 février courant interdisant aux taxi moto de circuler au-delà de 19 heures. Décision prise après de nombreux cas enregistrés et d'insécurité dans cette cité côtière. Conséquence de ce mouvement, plusieurs personnes ont dû marcher aujourd'hui. Le point avec Nana Plurich-Mambou.
Les taxis-motos, un moyen de transport prioritaire à Mwanda, cité qui ne dispose pas suffisamment de routes asphaltées, sont invisibles depuis ce matin. La population fait les pieds pour rejoindre les lieux de travail. Les conducteurs des motos se sont attroupés dans les différents carrefours de Mwanda pour dissuader et persécuter d'autres motards qui se désolidarisent d'eux. Ils disent ne plus être en mesure d'atteindre les versements journaliers à cause de la décision du Conseil provincial de sécurité, leur interdisant de circuler au-delà des 19 heures. Dans leur mémorandum, ces motocyclistes demandent à l'autorité de repousser leur circulation jusqu'à 21 heures, car malgré cette mesure de gouverneur de province pour éradiquer l'insécurité, Mwanda ne cesse d'enregistrer des cas de criminalité. Édouard Baza est le président de l'association des motocyclistes de Mwanda.
Nous, des motocyclistes, ne sommes pas à la base totalement de l'insécurité. Malgré cette mesure, l'insécurité continue. On a visité 3 maisons. Avec cette mesure-là de 19 heures, nous sommes dans les difficultés de vivre avec nos familles.
Contactée, l'administratrice du territoire de Mwanda indique que cette mesure ne peut être levée ou revue que par le gouverneur de province qui l'a prise. Amine Napanda affirme par ailleurs que depuis l'application de cette mesure, une accalmie s'observe à Mwanda en dépit de quelques cas isolés de vol à l'arme blanche. Matadi, Nana Plurich Mambou,
dans la province de la Tchopo, et nous venons de l'apprendre, les travaux de construction des ouvrages dans le cadre du projet de développement des 145 territoires ont été lancés ce week-end à Isangi, chef-lieu du territoire portant le même nom, situé à 125 km de Kisangani en aval du fleuve. La cérémonie de la pose de la première pierre a été présidée par le vice-gouverneur de province, Paulin Lendogolia. Le point avec Jacques Moukonkole.
Cette cérémonie s'est déroulée devant le bâtiment de l'Agence belge de développement Enabel, en présence de plusieurs personnalités, aussi bien officielles, religieuses que des partenaires techniques du gouvernement. Une occasion pour le vice-gouverneur des provinces d'appeler la population locale à s'approprier ces travaux qui visent le développement des entités, en l'occurrence ici, celle d'Isangi. Paulin Lendongolia l'a exhorté également à protéger les matériels afin que les travaux aboutissent normalement. Rappelons que cette activité avait été décidée en mars dernier lors de l'atelier de validation des infrastructures à réaliser dans la Tchopo. Cela après la signature le 24 février dernier à Kinshasa du contrat d'exécution des travaux de paix d'El 145 territoires par l'entreprise Safricas qui avait gagné le marché. Guy Verlin Chimanga, coordonnateur provincial du paix d'El 145 T dans la Tchopo, avait déclaré que dans un premier temps, ce sont les bâtiments administratifs, des centres de santé ainsi que des écoles primaires qui doivent être érigées au cours de cette première phase et leur livraison est attendue 6 mois plus tard. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Tanganyika à présent, un conflit de limite oppose le territoire de Kalemie à celui de Nyunzu. À l'origine de ce conflit, la découverte depuis quelques semaines d'un gisement de coltan dans le village Sangomutosha, situé à la limite entre les deux territoires, ce qui provoque des disputes entre les autorités de ces deux entités. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, qui s'est confié ce lundi à Radio Okapi, annonce qu'une commission se rendra dans la zone pour déterminer les limites entre les deux territoires. Dieudonné Kasaka est joint au téléphone par Paula Munanga.
En fait, c'est ça même la raison de notre mission de la descente qu'on a effectuée dernièrement à Sangomutosha, donc sur ce coin-là. Ce qui a créé tout ça, c'était l'apparition de ces matières-là, les coltans, entre les deux limites Nyunzu et Kalemi. Selon ce qui a été dit, il fallait qu'une équipe gouvernementale avec certains notables de tous les coins, ensemble avec certains députés provinciaux qui ne sont pas élus ni de Kalemi ni de Nyunzu, pour descendre, voir quelles sont les faisabilités pour arriver à départager ces deux territoires. On a fait ça, il fallait maintenant qu'une commission soit créée pour que cette commission de 8 personnes qui pouvait statuer selon les éléments qui ont été pris, qu'on sache réellement est-ce que cette partie appartient dans le territoire de Kalemie ou de Yunzu. Tous les éléments sont là et toutes les cartes sont là et qui seront consultées. Et avant qu'une décision soit prise, et les chefs Kisengo et les chefs Ngonda, tous sont là et je parle avec eux, il n'y a rien. Ils attendent que la décision pour que la solution soit trouvée.
Les détachements précurseurs des éléments des forces de défense du peuple du Soudan du Sud sont arrivés à Goma, en Nord Kivu, hier dimanche et ce lundi, pour renforcer les effectifs de la force régionale de l'EAC. Selon le commandement de cette force, l'arrivée de ces éléments de SPLA marque la phase finale du déploiement des troupes de l'EAC dans l'est de la RDC. Cette démarche est conforme aux instructions des chefs des forces de défense et des chefs d'État de l'EAC. Bernard Nyangi.
Ce premier détachement d'avance des forces de défense du peuple du Sud-Soudan, SPLA, constitué de 50 hommes, pour la plupart des officiers, est arrivé hier dimanche et ce lundi, d'autres éléments de troupes sont arrivés à Goma. Ils seront basés à Kibati, dans le territoire de Nyiragongo, avant leur déploiement sur l'axe Kibumba-Rumangabo, où ils vont cohabiter avec le contingent kenya déjà sur place. Ces dispositifs sont conformes aux recommandations de la réunion des chefs de défense des pays membres de l'EAC du 9 février 2023 à Nairobi. L'arrivée de ces Sud-Soudanais, selon les sources du commandement de la force régionale, marque la phase finale du déploiement des troupes de l'EAC dans l'est de la RDC. Ils vont renforcer les troupes kenyanes, burundaises et ougandaises déjà en province. Toutefois, le retrait des rebelles de M23 des zones de leur déploiement reste controversé. Selon plusieurs sources, les Kenyans sont déployés à Rumangabo alors que les rebelles y sont toujours. Les Ougandais, dont les autorités avaient déjà déclaré ne pas vouloir cohabiter avec les rebelles, continuent de camper dans le Kibaya de Bunagana côté Ougandais en attendant le retrait effectif des rebelles sur l'axe Bunagana-Ruchuru-Kiwanja. Pendant ces temps, les Burundais se déploient sur l'axe Sak-Kiloliro-Kichanga-Mueso alors que les rebelles sont toujours sur place.
Dans le même temps, le retrait des rebelles du M23 depuis hier dimanche est confirmé par plusieurs sources dans la localité de Bambou. Le constat est identique dans l'agglomération de Kishishe, chefferie de Bwito, où une centaine de civils avaient été massacrés en novembre 2022. Certaines sources locales expriment cependant des doutes sur la volonté de ces rebelles à dégarnir entièrement la zone qu'ils occupent. Blaise Chindani.
C'est depuis hier dimanche dans la matinée que les rebelles du M23 ne sont plus visibles à Kishishe et à Bambou, chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru, constatent plusieurs sources civiles contactées dans la région. Ces sources expriment cependant des doutes sur la stabilité dans cette zone. Ces sources pensent que le retrait dans les zones jugées moins importantes sont des stratégies pour renforcer d'autres positions, notamment dans les parcs nationaux de Virunga et vers Rugari et Kibumba. C'est lundi matin, nos sources parlent d'un accrochage entre les rebelles qui s'orientaient vers le parc et un groupe de Nyatura de la coalition de mouvement pour le changement, CMC. C'est dans le village de Mudugudu, en groupement de Tongo. Pendant ces temps, les rebelles avaient quitté Mueso en mi-mars avant d'y revenir en fin du mois, ce qui occasionne une instabilité dans cette zone. Signalons que les M23 sont appelés à se cantonner au Mont Sabignon et attendre le processus de désarmement de leurs troupes. Mais, 5 jours après la date butoir de leur retrait total du Masisi et Rutshuru, le 30 mars dernier, selon les instructions des chefs d'État, lors du 20e sommet de Bujumbura, rien ne semble évoluer, constatent nos sources.
En Ituri, le vice-gouverneur de la province, Alonga Boni Benjamin, est désormais le nouveau responsable de la police nationale congolaise en RDC. Il remplace à cette fonction son prédécesseur, le commissaire général Amuli Baigwa, mis à la retraite. Cela conformément à l'ordonnance présidentielle diffusée à la chaîne nationale le samedi. Qui est Alonga Boni Benjamin? Martial Kizabiamungu nous dresse son portrait.
Né à Guébena, dans le sud Ubangi, la soixantaine révolue a fait ses études primaires à l'école pensionnat Bouingi et le secondaire à Kotakoli avant de décrocher son diplôme d'état à l'Institut Bongisa en 1981. Il a commencé sa carrière dans l'armée comme soldat de première classe jusqu'à être élevé au grade de sergent en 1984 au sein des forces armées aïroises. Le commissaire général Alonga Boni Benjamin a été ensuite nommé sous-lieutenant ici de la 16e province promotion de l'école d'officiers de Kananga. Dans son parcours, il a suivi plusieurs formations militaires, notamment la spécialisation en criminologie et breveté d'état-major et autres. Il a ensuite intégré la police où il a occupé tour à tour les fonctions des commissaires général adjoint de la PNC en charge des opérations et renseignements de 2004 à 2013 avant de prendre la direction des écoles des formations au sein de la police. En mai 2021, avec l'avènement de l'état de siège instauré par les chefs de l'État, il est désigné vice-gouverneur de la province de l'Ituri aux côtés du lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, gouverneur militaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le nouveau bilan provisoire de l'épidémie de maladie à virus de Marburg qui sévit depuis plus de deux mois en Guinée équatoriale s'établit à 10 morts confirmés, a indiqué le ministère de la Santé ce lundi à l'agence France-Presse. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé OMS avait appelé la Guinée équatoriale à lui signaler les cas de virus de Marburg en raison des craintes de contamination plus répandues que celles annoncées. L'agence onusienne s'est alarmée d'une potentielle épidémie à grande échelle pouvant affecter notamment le Gabon et le Cameroun voisins. Des cas ont été recensés hors de la province de Kietem où elle avait provoqué le premier décès connu le 7 janvier jusqu'à toucher Bata, la capitale économique du pays. Notez que le virus de Marburg se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage dans l'espèce humaine par contact direct avec le fluide corporel des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. Le taux de létalité peut atteindre 88%.
L'invité.
Au Sud Kivu, le centre de recherche de l'INERA, Institut national d'études et recherches agronomiques, Mulungu, toujours victime de spoliation de son espace de travail. Des centaines d'hectares destinés à la recherche sont convoités par les privés et même certains services publics de l'État congolais. Le professeur Dieudonné Katunga, directeur intérimaire de l'INERA Mulungu, fait le point dans cet entretien qu'il a accordé à Emmanuel Elamejua Kabedi.
Docteur professeur Katunga, bonjour.
Bonjour.
Voulez-vous d'abord nous parler de l'INERA? L'INERA Mulungu avait d'autres concessions qu'on appelait Nyamunyuni et Chinganda. C'est toujours au compte de l'INERA Mulungu à ces jours?
Oui, c'est parmi nos grandes difficultés puisque actuellement nous connaissons que notre pays connaît un boom démographique. Et avec le boom démographique, l'espace commence à poser problème. C'est ainsi que tout le monde a les yeux braqués sur l'espace de l'État. On pense que l'État n'existe pas. De là, on peut prendre. Et la grande difficulté, d'abord, nous avions un site de transfert des technologies agricoles. Ce site-là, c'était Nyamunyuni. Et Nyamunyuni était conçu pour la démonstration des nouvelles technologies. Cette station, nous ne l'avons plus. Alors, nous avons la concession de Chinganda. C'est vers Bunyaki, c'est ça, Chinganda vers Bunyaki. Mais nous avons un problème de spoliation là-bas. Et nous avons là 160 hectares que nous risquons de perdre comme ça. Parce qu'il y a des vautours autour.
Et Nyamunyuni, c'était combien?
90 hectares. Oui.
Et il y a aussi le Barika, dans la plaine de la Ruzizi. C'était pour l'INERA Mulungu toujours. Les gens, quand ils voient la terre de l'INERA, ils pensent que c'est une terre vacante. Quand ils voient que les champs sont en jachère, ce n'est pas valorisé. Alors, les gens ne comprennent pas que la terre de l'INERA, c'est leur terre. Pour qu'ils puissent avoir de bonnes semences, ça doit venir de là. C'est comme quelqu'un qui détruit son salon. Le patrimoine INERA, nous devons le préserver puisque c'est un bien commun. C'est pour eux, c'est pour nous, c'est pour l'État. Et l'État, c'est nous tous. Et du coup, vous voyez que si par exemple on lotissait tout l'INERA Mulungu, la richesse agronomique va partir. C'est plus tard qu'ils se rendront compte de l'erreur, puisqu'on ne sera plus avoir un milieu écologique qui répond à ces conditions.
Et ici même, l'espace ici, c'est quelle superficie?
792 hectares.
Mais dans les chiffres actuels, avant, on parlait de 1114, je pense. Et la force de l'INERA, c'est sa vocation au niveau du pays. Nous sommes chargés de la recherche agronomique nationale.
Mais principalement, recherche en quoi? Quel genre de semences, quel genre de domaines?
Bon, d'une manière globale, au niveau de Mulungu, nous nous occupons de la recherche d'une manière globale qui concerne l'agriculture. Et l'agriculture, donc, vous avez les grandes composantes, ce sont par exemple les cultures industrielles. Quoi? Le théier, le caféier, le quinquina, tout ce qui est industriel. Et en principe, l'INERA qui devrait être capable d'aider les grandes exploitations à améliorer leur culture, puisque parfois ils sont confrontés soit au problème de maladie, aux problèmes de fertilité du sol, à tous les problèmes. En dehors de ça, vous avez les cultures vivrières, notamment les blés.
Ici au sud qui vont ?
Ça pousse très bien ici. Il y a alors les cultures qui sont africaines, notamment le riz, les maniocs, les arachides, et ainsi de suite. Et l'année de même pour l'élevage.
Voilà, du côté de l'élevage aussi.
Par exemple, pour l'élevage, vous avez l'introduction des bêtes améliorées. Et ce sont des bêtes qui viennent d'Europe. Si nous prenons par exemple pour la production laitière, la race frisonne. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu nous a dotés d'un pays formidable où nous avons toutes ces écologies-là. Mais nous avons aussi des activités sur les légumineuses, donc les haricots, les arachides, tout ce qui est comme légumineuses. Et nous avons sur le maïs, le riz, et les maniocs, les fruits et bananes, et sur l'élevage.
Parlez-nous maintenant de quelques appuis que vous avez avec certains partenaires.
Oui, et compte tenu de cette vocation nationale de nous occuper de la recherche agronomique, il n'y a pas un partenaire qui doit venir travailler sur l'agriculture côté recherche sans s'allier à l'INERA, d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et de ce fait, nous avons plusieurs partenaires, hein, directs et indirects. Mais ceux qui sont avec nous aujourd'hui, je pense, en termes de projet, nous avons un projet sur qui travaille sur les semences. La FAO travaille sur les semences avec nous. Donc, on travaille avec l'ITA, c'est vraiment notre partenaire privilégié. Et alors, il y a le gouvernement qui a pris un prêt de la Banque mondiale sous le chapeau de Picagel. Et on a déjà introduit trois races améliorées.
Ça, c'est toutes ces trois races, c'est pour la vache.
C'est les vaches, ce sont des races de vaches,
oui,
les tiers. Mais rentre encore au gouvernement avec Picagel et la Banque mondiale, ils nous ont doté de notre centre. Il y a un grand laboratoire qui est au top. Donc quand il va fonctionner, il est beaucoup plus côté pédologie. Et donc aujourd'hui, nous avons ce laboratoire-là.
Merci beaucoup, professeur Dieudonné Katunga. Merci beaucoup.